Épilogue. Après la nuit. La malédiction des gentils. Les jours qui suivirent la mort d'Alexis Deville et l'arrestation de mon père figurent parmi les plus étranges de ma vie. Chaque matin, j'étais persuadé que les investigations de la police allaient déboucher sur la réouverture de l'enquête concernant la disparition de Vinca et de Clément. Mais depuis sa cellule, mon père réussit à circonscrire le danger avec maestria. Il prétendit avoir entamé depuis quelques mois une relation amoureuse avec Alexis Deville. Sa femme, expliqua-t-il, avait découvert sa liaison et était allée voir sa maîtresse armée d'un fusil. Se sentant en danger, Alexis s'était défendu et avait éliminé ma mère avant d'être elle-même tuée par mon père. Le scénario tenait la route. Il fournissait des mobiles clairs et crédibles à tous les protagonistes. Son premier mérite était de cantonner ses meurtres à la sphère passionnelle. L'avocat de mon père salivait à l'avance à la perspective du procès. La violence du meurtre de ma mère par Alexis Deville, ainsi que ses antécédents psychiatriques et l'épisode des chiens qui m'avaient attaqué, faisaient presque passer l'acte de mon père pour une vengeance légitime et ouvraient la porte non pas à son acquittement, mais à une peine légère. Surtout, l'hypothèse du crime passionnel avait l'avantage de ne pas relier cet épisode à Vinca ni à Clément. Mais cet enchaînement de circonstances me paraissait trop beau pour être vrai. Pendant quelques semaines, je crus pourtant que la chance allait continuer à nous sourire. Maxime était sorti du coma et son état de santé s'améliorait de façon spectaculaire. En juin, il fut élu député et son nom fut parfois évoqué dans la presse pour un poste de secrétaire d'État. L'enquête sur son agression avait sanctuarisé la zone aux alentours du gymnase qui était devenue une scène de crime. La démolition ne commença donc pas à la date prévue. Puis lorsque le board de la Fondation Hutchinson et Deville décida, au vu des circonstances, de retirer sa dotation au lycée Saint-Exupéry, les travaux furent renvoyés au calende grec et la direction se mit à développer un discours aux antipodes de celui qu'elle avait tenu jusqu'alors. Sous couvert d'arguments écologiques et culturels, les représentants de Syntex insistèrent sur les dangers qu'il y aurait à modifier un tel site naturel qui perdrait nécessairement une partie de son âme à laquelle tous les acteurs éducatifs étaient attachés. CQFD. Fanny avait repris contact avec moi dès l'annonce de l'arrestation de mon père. À l'hôpital, nous avions passé toute une soirée dans la chambre de Maxime encore inconscient à nous raconter l'entière vérité sur la nuit de 1992. Apprendre qu'elle n'était pas responsable de la mort de Vinca lui avait permis de reprendre sa vie en main. Peu après, elle avait quitté Thierry Seneca et avait appelé une clinique de fertilité à Barcelone pour se lancer dans une fécondation in vitro. Depuis que Maxime allait mieux, nous nous retrouvions souvent autour de lui, à l'hôpital. Pendant quelques jours, je crus réellement que nous allions échapper tous les trois au destin tragique auquel la présence des deux cadavres emmurés nous condamnait. Pendant quelques jours, je crus vraiment que nous avions réussi à triompher de cette malédiction des gentils. Mais c'était sans compter la trahison de celui auquel j'avais eu le tort d'accorder ma confiance, Stéphane Pianelli.
Ça ne va pas te faire plaisir, mais je vais publier un livre qui racontera la vérité sur la mort de Vinca Rockwell,
m'annonça tranquillement le journaliste un soir de la fin juin, alors que nous étions assis au comptoir d'un pub du Vieil Antibes où il m'avait invité à prendre un pot. Quelle vérité ?
La seule et l'unique,
répondit Pianelli, imperturbable.
Nos concitoyens ont le droit de savoir ce qui est arrivé à Vinca Rockwell et à Alexis Clément. Les parents d'élèves de Syntex ont le droit de savoir qu'ils inscrivent leurs enfants dans un établissement où deux corps sont emmurés depuis 25 ans.
Enfin, Stéphane, si tu fais ça, tu nous envoies tous en prison. Fanny, Maxime et moi. La vérité doit éclater, asséna-t-il en tapotant le comptoir de la paume de la main. Puis il partit dans une grande tirade et, noyant le poisson, me parla d'une caissière qui avait perdu son emploi à cause d'une erreur de quelques euros et du laxisme dont, d'après lui, les tribunaux faisaient preuve envers les hommes politiques ou les patrons. Il embraya avec son éternel discours, le même qu'il ressassait depuis la fin du lycée, sur la lutte des classes et le système capitaliste, outil d'asservissement au service des actionnaires. « Mais enfin, Stéphane,
quel rapport avec nous ?
Il me défia du regard, avec un mélange de gravité et de jubilation, comme si depuis le premier jour, il avait espéré se retrouver dans ce rapport de force. Et je sentis, pour la première fois peut-être, à quel point Pianelli nourrissait une haine viscérale envers ce que nous représentions.
« Vous avez tué deux personnes. Il faut que vous payiez pour ça. »
Je bus une gorgée de ma bière et essayai de prendre un air détaché. « Je te crois pas. T'écriras jamais ce livre. » Il prit alors dans sa poche une enveloppe épaisse qu'il me tendit. Un contrat qu'il venait de signer avec une maison d'édition parisienne pour la parution prochaine d'un document intitulé « Une étrange affaire, la vérité sur Vinca Rockwell ».
T'as aucune preuve de ce que tu avances, mon pauvre. Tu vas griller ta crédibilité de journaliste avec ce livre.
Les preuves, elles sont dans le gymnase,
fit-il en ricanant.
Lorsque le livre sortira, compte sur moi pour rameuter les parents d'élèves. La pression sera tellement forte que la direction ne pourra faire autrement que d'abattre le mur.
Les meurtres de Vinca et d'Alexis Clément sont prescrits.
Peut-être, bien que ce soit très discutable en droit. Mais le meurtre de ta mère et celui d'Alexis Deville ne le sont pas. La justice va s'en saisir et fera le lien entre tous ces assassinats.
Je connaissais l'éditeur. Ce n'était pas une maison très prestigieuse ni très rigoureuse, mais elle avait les moyens d'assurer au livre une forte publicité. Si Pianelli sortait vraiment son bouquin, il allait avoir un effet dévastateur.
Je comprends pas pourquoi tu nous condamnes, Stéphane. Pour avoir ton petit moment de gloire, c'est ça ? Ça te ressemble pas.
Je fais mon boulot, c'est tout.
Ton boulot, c'est de trahir tes amis ?
Arrête ! Mon boulot, c'est d'être journaliste. Et on n'a jamais été amis.
Je pensais à la fable du scorpion et de la grenouille.
Pourquoi m'as-tu piqué ?
Demande la grenouille au scorpion, en plein milieu de la rivière.
Par ta faute, nous allons mourir tous les deux. Parce que c'est dans ma nature,
lui répond le scorpion. Le journaliste commanda une nouvelle pression et enfonça le couteau dans la plaie.
C'est une histoire vraiment fascinante. Les Borgia, version moderne. Tu paries qu'ils en feront une série pour Netflix ?
Je regardais ce tâcheron se réjouir de la destruction de ma famille, et j'avais envie de le tuer.
« Je comprends pourquoi Céline t'a quitté, »
dis-je.
« Parce que t'es un pauvre type, une sombre merde. »
Pianelli essaya de me balancer sa chope de bière au visage, mais je fus plus rapide que lui. Je reculai d'un pas, lui asséné un direct en plein visage et un uppercut dans le foie qu'il fit tomber à genoux. Lorsque je quittai le bar dans la nuit, mon adversaire était à terre, mais c'était moi qui avais perdu. Et cette fois, je n'avais plus personne pour me protéger.